urbanisation forcée de la société, contre cette urbanisation qui dépossède un certain nombre d'habitants de leur manière de vivre, de leur espace de vie. Et on sait très bien, bon, notamment, ça n'a jamais été mieux dit que par Heidegger notamment, à quel point, je veux dire, dans l'habiter, l'habitat, le lieu de vie, c'est consubstantiel, constitutif de l'être, hein, de l'être, de l'individualité, quoi. C'est pas extérieur aux individus. Et donc face à ça, se développe toute une série de luttes, de mouvements, d'oppositions, de contradictions, contre les démolitions dans les centres-villes, contre la création d'infrastructures de transport, pour une ville, non pas qu'il soit une ville du passé, non pas qu'il soit une ville du patrimoine conçu comme une protection d'un cadre qu'on ne doit pas faire évoluer parce qu'on peut faire du pognon avec, mais une ville qui doit protéger un cadre et en protégeant ce cadre, protéger les usages, les modes de vie, les pratiques qui vont avec. Hein? Ça se développe beaucoup, ça se développe pas mal à ces années-là. Dans ces années-là, il y a des exemples un peu partout en France. Ça s'appuie, par exemple, ça trouve des échos forts dans des travaux comme les travaux de Michel de Certeau, hein, bon, qui sont des travaux un peu fondateurs de toute cette attention portée aux usages de l'espace, d'abord dans les centres-villes, mais très vite aussi dans les espaces périurbains ou dans les grands ensembles. Parce que très vite, ce qui va se passer, c'est que dans cette sociologie critique, qui au départ critique le périurbain comme des espaces de vie imposés, comme de l'éloignement des catégories populaires des villes. Dans cette sociologie urbaine, ces études urbaines qui critiquent les grands ensembles comme des espaces où il ne fait pas bon vivre, comme des espaces où on a parqué volontairement des catégories sociales, en particulier les ouvriers, puis plus tard, les populations issues de l'immigration. Eh bien, en même temps qu'il y a cette critique des processus d'urbanisation qui ont conduit à l'édification de ces lieux-là, se développe aussi tout un courant qui dit mais quand même dans ces lieux se sont développés des usages, des pratiques, même ces lieux sont devenus des lieux habités, encore une fois habités au sens d'Heidegger, quoi, c'est-à-dire habités au sens on peut pas habiter sans se, enfin en habitant on se construit soi-même, quoi, hein, et donc on a à la fois une critique qui consiste à dire à cette époque, arrêtons de massacrer les centres qui sont des lieux où les valeurs d'usage, etc., doivent pouvoir continuer à prévaloir, etc., etc. Mais attention, ne portons pas non plus simplement un regard critique, parce que si on commence à critiquer ce qui se passe dans les quartiers de grands ensembles ou de ZUP, ce qui se passe dans le périurbain, qu'est-ce qu'on va critiquer? On va critiquer des formes d'urbanisation qui ont été imposées assez largement aux individus, et en même temps des formes dans lesquelles, malgré cette imposition, ils ont su développer des modes de vie qui leur sont propres. Donc soyons prudents, soyons attentifs, attachons-nous à décrire, à comprendre les modes de vie, les modes d'habiter, attachons-nous à déconstruire les mécanismes de production de ces espaces, et autant on peut être critique sur les mécanismes de production, autant il convient d'être prudent sur la manière dont on va parler des modes de vie. Parce que les modes de vie, parce que l'habiter, attention, c'est pas neutre, c'est pour les individus dont on parle quelque chose qui est consubstantiel de leur construction psychologique, leur construction sociale, hein, familiale par certains côtés, etc., etc. Donc on a ces deux courants qui se développent, ce courant global qui se développe, qui est à la fois critique sur la production de la ville et qui est en même temps attentif à la manière dont les gens vivent, s'approprient les lieux, etc., etc. Un exemple de lutte urbaine à Toulouse, hein, bien connu, et je dis, on peut en parler d'autant plus qu'on est ici, c'est ce qui s'est passé à Toulouse en 1974, hein, à propos des berges de la Garonne. C'est-à-dire, en 1974, donc j'étais censé faire un peu l'histoire de Toulouse, donc je continue. mais en 1974, là, il y a un projet, hein, qui est voté par le conseil municipal et qui dit, là, on fait passer des voies sur berge. Donc on fait passer une autoroute urbaine, là, en bas, là, et tout le long. Et en même temps, cette autoroute urbaine, à d'autres endroits de la ville, hein, on l'a fait passer dans le canal du Midi. On assèche le canal du Midi, donc aucun intérêt, qu'en Albanie. Non, c'est vrai. À part des quelques touristes de temps à autre, déjà sur des péniches qui prennent aucun intérêt. Donc on assèche et on fait passer une autoroute. Modernisation. Hein. Sur ce projet, hein, juste pour vous donner une idée, sur le port de la Dorade, là, hein, il y avait un projet de parking silo. Vous savez, un parking de 5 étages en silo. Pouf, comme ça.
C'était la mode.
Ouais, comme au Caron.
Voilà, c'est ce que j'ai vu.
Le même, hein. Mais plus haut. Parce que comme on était plus bas, on pouvait monter plus haut sans... Bon. Bon. Et là se met en place un projet de lutte urbaine porté par un comité de défense des berges de la Garonne qui existe encore, qui est l'ancêtre, ou en tout cas qui est l'association, le groupe d'individus à partir duquel s'est fondée plus tard l'association Vélo. Hein? Donc comme quoi tout ça a une histoire et que les gens que vous voyez aujourd'hui avec leurs gilets fluo ou machin, de manifester une fois par an pour le vélo dans la ville et tout ça, eh ben, ils ont des ancêtres hein, qui manifestaient à l'époque pour que les berges de la Garonne ne deviennent pas une autoroute urbaine. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que la ville, selon eux, la ville de Toulouse et ses berges, qui était un parking à l'époque, hein, on pouvait s'y garer comme sur toutes les berges de France, hein, comme à Lyon, comme à Bordeaux, etc. Il fallait que cet espace soit redonné aux habitants. Il fallait que cet espace devienne un parc dans la ville. Il fallait que cet espace devienne un espace de jeu. Il fallait que cet espace... Donc pour montrer ça, par exemple, à l'époque, ce qui était particulièrement transgressif, ils organisaient chaque année un cross. Ils organisaient la fête des berges et aussi un cross. C'est un genre qui courait autour des berges de la Garonne. Aujourd'hui, hein, c'est intéressant, le sport dans la ville, c'est à l'inverse, c'est un truc complètement marketing, totalement récupéré, etc. Là, c'était porté comme un événement politique qui était en contradiction avec le projet municipal, hein, à tel point que pour les fêtes des berges de la Garonne, ils allaient chercher tout le matos, la sono, les chaises, les tables, leur étaient prêtés par des municipalités socialistes, qui n'étaient pas la municipalité de Toulouse, mais qui étaient des municipalités de périphérie. C'est-à-dire, ils allaient chercher les chaises ailleurs pour les amener là, parce que la mairie ne voulait pas leur prêter les trucs. Donc il y avait là un exemple très clair, hein, de conflit, de discussion, d'enjeu autour de la ville, et autour, au fond, de ça, c'est-à-dire de ce passage, à un moment donné, de la ville à l'urbain, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut faire de la ville un espace traversé par des flux de bagnoles, d'infrastructures, machin ? Ou est-ce qu'on veut faire de la ville un espace dans lequel on respecte, on s'appuie sur les usages, les pratiques, les modes de vie, etc., etc. Ils ont gagné. Hein, c'est intéressant. Avec le recul, aujourd'hui, forcément, si vous prenez... Ils avaient fait un contre-projet à l'époque. Ils avaient fait un contre-projet dessiné par des architectes, etc. Et si vous prenez le contre-projet et que vous le comparez à ce que sont les berges aujourd'hui, ben c'est... trait pour trait, ce que sont devenues les berges. Alors bon, ça s'appelle la récupération, ou alors ça s'appelle le succès. Ça dépend. Hein, ils ont réussi à faire qu'elles ne deviennent pas des autoroutes. Ils n'ont par contre pas évité l'embourgeoisement progressif de tous les quartiers à proximité des berges qu'ils ont protégés et effectivement qui constituent aujourd'hui un cadre de vie fortement recherché qui a participé à faire monter les prix de l'immobilier. Tout autour des berges. Donc, si vous voulez, lutte urbaine, certes, protection des usages, oui. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est aussi toute l'ambiguïté de ces luttes. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a les bons et les méchants. Eux, pendant un temps, c'était les bons. Et puis, quelques années plus tard, ils constituent encore un groupe de pression qui a en partie participer à des choix urbanistiques beaucoup plus discutables qui ont été faits un petit peu plus loin sur les berges de la Garonne, autour du jardin Raymond VI, ou en face sur la ZAC du Bazac. Là, on est toujours sur les berges de la Garonne, ils sont toujours comité des berges de défense de la Garonne, sauf qu'ils ont vieilli entre-temps, ils ont pris 40 ans. Hein. Au début, ils étaient étudiants, et puis après, ils étaient professeurs d'université, et donc ils se sont embourgeoisés, etc. Pardon ? Il y en a même certains qui sont peut-être devenus architectes. Et du coup, ils n'ont pas défendu tout à fait les mêmes enjeux quelques années après, mais ça, c'est une autre histoire.
Ils ont négocié les terres.
Les leurs contre les autres.
Ceux qui étaient d'un côté, donc c'est dit, oh, ce serait plus bon que ce côté.
Donc, sur les modes de vie, l'analyse démarre dans les années 60, elle se cristallise autour de cette question de, alors, comment est-ce qu'on prend les usages, comment est-ce qu'on confronte les usages à la production de la ville, à la planification. Et clairement, il y a un courant critique qui dit mais la planification de la ville, la production de la ville, c'est une manière de venir... Bon, c'est Lefebvre. Hein. Alors, tout le monde me dit ces derniers temps, Henri Lefebvre, c'est daté. tu devrais pas s'égater. Moi, je persiste à dire, Henri Lefebvre, c'est pas mal. C'est-à-dire, il dit quand même, la planification, c'est une autre manière hein, d'imposer une domination de classe dans une période où l'industrialisation arrive à son maximum et où la désindustrialisation commence et ne cessera d'arriver. La domination de classe, elle passe plus par l'usine, il faut bien qu'elle passe ailleurs, elle passe par l'espace urbain. Et un des bras armés de cette domination de classe, c'est la planification. Je persiste hein, à dire que même aujourd'hui, la planification est souvent un vecteur de la domination de certains groupes sociaux sur d'autres, si on ne peut plus parler de classe.
Ça dépend qui planifie.
Oui, ça dépend qui planifie, ceci
il
dit...
Il faut une méthode de planification, parce que si on s'appuie effectivement sur les études...
Ceci dit, moi je pense quand même que...
Et que la politique, effectivement, se sert de ces...
Moi je pense que rares sont les exemples qui, ces dernières années... Marché. Non pas ont fonctionné, mais rares sont les exemples qui, ces dernières années... Les exemples d'innovation en matière de planification ces dernières années ont quand même plutôt conduit à un certain nombre de succès dans quelques écoquartiers, dans quelques centres-villes, dans quelques parties. La planification réussie, par exemple, dans le périurbain toulousain, elle est aussi covale, quoi. Elle est aussi covale. Ah, pardon, j'ai employé un gros mot. C'est-à-dire elle est dans toute la partie périurbaine du sud-est toulousain.
Qui n'est pas rentrée dans le Grand Toulouse.
Qui ne veut pas rentrer dans le Grand.
Qui est quoi? Qui est en fait un territoire... Hein, c'est toutes les communes, Ramonville, Castanet, Labège, et puis toute une série de petites communes qui sont après.
Il y a une réunion cette semaine sur Ramonville concernant son rattachement.
Bon, ces communes sont présentées comme des communes dans lesquelles on a réussi la planification. Oui, on l'a réussi, c'est vrai. Au sens où on n'a pas de problème d'urbanisme massif, d'erreurs urbanistiques flagrantes. En même temps, c'est des communes qui sont largement peuplées de catégories moyennes supérieures ou supérieures. Donc la planification réussie, ça marche bien dans des territoires où quand même on a tout intérêt à ce que ça marche. En tout cas, un certain nombre de catégories sociales ont intérêt à préserver leurs acquis. Et leurs acquis, c'est des acquis en termes de maîtrise de l'espace. Hein, pas avoir des voisins qui, en venant s'installer à côté de chez vous, peuvent faire baisser la valeur de... La valeur de votre bien. Hein, vous savez, si vous avez un bien, vous allez posséder, on met du logement social à côté de chez vous, le prix de votre bien diminue. Et donc du coup, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait du logement social à côté de chez vous. Donc effectivement, la planification ici, ça peut marcher, mais il y a des endroits où ça marche moins bien, et bizarrement, quand ça marche moins bien, c'est souvent à des endroits où il y a des catégories plus modestes. Ou bien parfois la planification, l'urbanisme, c'est fait de manière totalement autoritaire, hein, comme c'est le cas à Bagatelle, au Mirail. Jusqu'à il y a peu, les choses ont changé, nous dit-on. Où on a, comme ça, vous savez, hein, vous connaissez tous le... Vous faites des croquis, vous aussi, là, dans vos trucs, dans vos études, tout ça. Et vous savez, il y a des immeubles comme ça, là, et puis il y a un urbaniste qui dit, non, mais pour résoudre les problèmes de ce quartier, hein, c'est pas compliqué, il faut faire ça. Il faut faire une rue, comme ça. Mais le trait de cette personne, là, il y a peut-être 3000 personnes qui habitent. Sur ces 3000 personnes, il y en a peut-être 2500 qui sont nées là et qui habitent là depuis 25-30 ans. Donc ce trait, il a politiquement, socialement, humainement, un petit impact, quoi.
Un petit,
parce que pour ne pas le voir, il ne suffit de pas y aller, il ne suffit de pas les rencontrer, il ne suffit de pas leur demander leur avis. Hein, il suffit de discuter ça tranquillement ici, entre nous, quoi. Vous voyez ? Donc, cette question de la planification et de son rapport à la maîtrise de la ville et aux groupes sociaux et aux intérêts des groupes sociaux et à qui subit et qui profite, je pense que ça reste toujours d'actualité. Il suffit aujourd'hui de se rendre compte, par exemple, qu'on a un État, hein, l'État français, qui continue de faire des politiques du logement qui sont prioritairement des politiques du logement qui, en fait, financent les banques pour qu'elles financent les prêts. Hein, la politique du logement en France depuis les années 70 consiste à financer les banques pour que les banques financent les prêts. Avant les années 70, la politique du logement en France consistait à financer les villes, les organismes HLM, les syndicats et autres groupes constitués pour qu'ils construisent des logements. de logements accessibles. Depuis les 1977, hein, tournant néolibéral, barre, on finance les banques pour que les banques financent les prêts. Hein, demain, si vous voulez devenir propriétaire de votre logement, le premier interlocuteur que vous irez voir, c'est un banquier qui, comme tout le monde le sait, est un spécialiste des questions urbaines et des questions de logement. Hein? Donc, si vous voulez, en faisant ça, par exemple, et en disant, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a dit, on va faire les maisons à 100 000 euros. Vous avez entendu parler de ça?
Oui.
Puis après, il y en a un autre ministre qui est arrivé, toujours plus fort, la maison à 15 euros par jour. Vous n'avez pas entendu? Une bouteille. Et puis avant, il y en avait eu d'autres, ne vous inquiétez pas. Quand vous faites ça et que ça produit quoi? Ben, ça produit quelque chose qui est très simple. Hein, ça produit le fait que si vous avez une ville et que ça, c'en est le centre, et que vous dites à quelqu'un, voilà, 100 000 euros pour faire une maison, une fois que vous avez enlevé le prix de la maison, il faut quand même acheter le terrain. Bon, donc si vous avez 100 000 euros et que vous êtes dans l'aire urbaine de Toulouse, eh ben moi, je peux vous garantir que si vous avez 100 000 euros dans l'aire urbaine de Toulouse, vous faites construire ici, c'est-à-dire à 50 km. Ben, ça, c'est un bon exemple, hein, d'une politique qui fait en sorte d'envoyer ceux qui ont le moins de moyens le plus loin des villes. Donc, dans des endroits dans lesquels il y a le moins d'équipements, dans des endroits dans lesquels ils devront payer le plus de déplacements.
Oui, mais le banquier, il ne regarde pas le
transport. Mais le banquier, effectivement, lui...
Comment ça regarde maintenant?
Effectivement, lui, il ne regarde pas trop, quoi.
Comment ça regarde?
Les études, elles montrent qu'en gros, en région parisienne sur 30 ans... Oui? Non?
Elle habite à Carcassonne.
Oh, je ne peux pas vous parler de Carcassonne, j'ai pas le temps, mais.
Oui. Non, mais on parlait de la distance.
J'ai travaillé sur l'urbanisation à Carcassonne, et c'est intéressant. Mais bon, le jour où je devais aller présenter mes travaux au maire, j'ai appris que le maire avait vu son élection annulée, parce qu'il avait fraudé. Donc du coup, je suis pas allé parce qu'il n'était plus maire. Et en même temps, c'était pas plus mal parce que vu ce que j'avais appris avant. Bon, mais du coup. Les politiques publiques et les politiques du logement aujourd'hui, par exemple, incitent les gens les plus modestes à aller habiter le plus loin des villes, donc dans les endroits qui sont les moins faciles ensuite à vivre pour eux. Bon, c'est pas inintéressant quand même comme point de vue. Hein? À l'inverse, bien sûr, on sait qu'on fait beaucoup d'investissements dans les centres aujourd'hui. On y fait des investissements culturels, on y crée toujours plus d'équipements, de centres, d'art, de médias, de machins, de théâtre, la culture. L'art, la culture, c'est indispensable à la vie de la ville. Et ça se passe le plus souvent au centre. Le plus souvent, pas toujours quand même. Il y en a qui essaient d'innover, mais le plus souvent, c'est au centre. C'est intéressant, c'est là où les prix du foncier et de l'immobilier sont les plus chers, donc on sait à qui tout ça profite.
Mais ça a toujours été, hein.
Non, parce qu'il fut un temps où habiter en ville, habiter en centre-ville, pas simplement les catégories les plus favorisées.
Oui. Mais bon, l'art et le mécénat, ça a toujours été lié, hein.
Ah oui, je veux bien. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que là, on est dans un contexte où on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a toute une partie des politiques publiques qui participent de cette dilution de la ville dans l'urbain et qui, ce faisant, prennent pas ou peu ou mal en compte un certain nombre d'enjeux. C'est ma dernière partie. Alors, les enjeux...
Mais à Paris, vous avez fait un
centre
contemporain en banlieue.
Il y en a. Il y en a quelques-uns.
Il y a des centres contemporains à la campagne.
Oui, mais par rapport à la ville de Paris, c'est assez... c'est un peu... Par rapport à ce que vous disiez, ça...
Si vous voulez, les centres...
C'est un effort fait pour essayer de...
Non, parce que à l'échelle de l'aire urbaine, de la grande région urbaine parisienne, les centres qu'ils ont positionnés, ils les ont positionnés dans des quartiers en difficulté, ce qui est très bien, parce que ça y fait venir des populations qui n'y viendraient pas autrement. Mais du coup, on sait très bien que c'est dans des parties... Il y avait un très bon article dans Le Monde, il y a une semaine ou deux, sur la Seine-Saint-Denis et les évolutions que connaît la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, par exemple, est un département dont on sait très clairement aujourd'hui qu'il est en train de se gentrifier, de s'embourgeoiser. C'est-à-dire que ce qu'on nous présente encore comme un département peuplé de catégories ouvrières, etc., c'est vrai en partie, dans des petites poches de pauvreté et d'extrême pauvreté, pour une bonne partie du reste de la Seine-Saint-Denis, on est sur un processus qui reproduit à une autre échelle, à un autre niveau, ce qui s'est passé dans les centres-villes depuis l'haussmannisation, c'est-à-dire, du fait de l'étalement global de la ville, l'étalement aussi de son centre, et l'étalement du centre, il a pour effet de se traduire le plus souvent par le départ forcé des catégories les plus modestes, remplacé par des catégories un peu moins modestes, voire pas modestes du tout. Donc si vous voulez, au début, placer dans ces quartiers-là, dans ces zones-là, ce type d'équipement, ça part d'un bon sentiment, mais très vite, ça a un effet secondaire. C'est exactement le même exemple que le comité de défense des berges. Protéger les berges, c'est très bien. Personne n'est contre dans les années 70. Mais si on n'y prend pas garde, d'accord, les berges deviennent un luxe et un agrément qui fait que les prix de l'immobilier à côté montent. Et si on n'y prend pas garde, ce qui était au départ censé protéger les usages, la manière de vivre dans la ville, eh bien ça participe à faire fuir les populations les plus modestes. On est, à mon sens, là, dans ce que vous décrivez, sur le même processus. C'est-à-dire, si on n'y prend pas garde, ça peut, à terme, produire ses effets. Et comment on y prend garde? Ben, on y prend garde par des politiques qui doivent être... Bon, mais ce n'est pas le lieu d'en parler, mais... Non, mais je veux dire, on ne va pas rentrer dans la technique des politiques du logement, des politiques de la ville, parce que c'est un peu plus complexe. Le sujet, à mon sens, aujourd'hui, c'est plutôt sur les usages, les enjeux. Mais effectivement, là, il faudrait pouvoir, par le biais d'un certain nombre d'actions publiques et politiques, éviter ces dérives. Éviter ces dérives. Alors, les enjeux, ils sont de quelle nature? Ben, les enjeux, ils sont, à mon sens... Je crois que j'ai pointé trois enjeux, pour conclure. Bon, évidemment, il y a un premier, le passage de la ville à l'urbain, hein, c'était le sujet. Passage de la ville à l'urbain.
Vous ne vouliez pas développer sur les modes de vie, justement, que ça...
Je ne l'ai pas fait.
Non.
Je ne vais pas le faire plus, parce que théoriquement, c'est l'intervention de vendredi.
Ah, d'accord.
Donc j'étais juste là, moi, pour justement ne pas développer et faire en sorte que vous ayez envie que je développe. Pour que vous arriviez vendredi avec... Pour que vous arriviez vendredi avec une question. Ouais. Voire des questions. Ouais. Non, je plaisante.
Sur vos problèmes.
Les rires, j'en ai.
Non, mais peut-être faire mon projet, peut-être un jour.
Bon, vous avez bien compris, mais je peux parler de minutes des usages. Vous avez bien compris que ce qui est modifié dans les usages de la ville, au travers du passage de la ville à l'urbain, au travers de tout ce dont je viens de parler, bah, c'est évidemment des usages qui, de plus en plus, se structurent autour de la mobilité. Mmh. La mobilité est un élément structurant, un élément clé des espaces urbains aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas penser, comprendre les espaces urbains aujourd'hui si on ne pense pas à la mobilité. Là, il y a des éléments extrêmement forts. Quelles sont les formes de mobilité dans un moment où on sait très bien que les mobilités de domicile-travail, celles qui sont utilisées là, sont en fait qu'un tiers des mobilités. Deux tiers des mobilités ne sont pas des mobilités domicile-travail. Donc, comment on prend en compte aussi les autres déplacements? On sait très bien aujourd'hui que les mobilités sont éclatées, multipolaires. On sait très bien qu'il n'y a pas de trajet, il n'y a pas tant que ça des trajets linéaires d'un point A à un point B, point. On sait qu'il y a des trajets qui font du cabotage. Et c'est pour ça, en partie, que les transports en commun ne fonctionnent pas dans des espaces peu denses. Donc, bien sûr, parmi les usages, là, il y a une question fondamentale, celle qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, qui est la question de la mobilité, et qui est une question clé qui permet, y compris, de déconstruire ce que je viens de dire sur la fragmentation sociale, l'éloignement des catégories populaires, etc. Au fond, on peut avoir soit une approche critique, un petit peu comme je viens de l'avoir, et qui dit, mais... Aujourd'hui, il y a les riches plutôt en centre-ville, les pauvres dans le périurbain lointain et dans les quartiers en difficulté, et puis les classes moyennes dans les premières couronnes du périurbain. Je pense que Marie-Christine Jaillet vous parlera de la ville à trois vitesses vendredi, du modèle de la ville à trois vitesses. Et on peut dire, ça c'est terrible, parce que c'est de la fragmentation sociale, c'est de l'éclatement. C'est des gens qui choisissent de se mettre à distance les uns des autres. C'est des gens qui ne veulent plus vivre ensemble.
Est-ce que vous croyez vraiment que c'est les gens ou c'est les conditions qui...
Si vous avez...
Ou c'est les architectes et urbanistes qui font ça, en fait.
Si vous avez... Enfin, une partie de mon propos sur justement, par exemple, ce que sont les politiques du logement ou le fait de forcer une partie des catégories populaires à accéder à la propriété très loin des villes, vous avez bien compris que moi, je pense qu'il y a en partie une volonté des individus, une plus grande difficulté des individus aujourd'hui à accepter de vivre dans des contextes urbains, aléatoires, différenciés par certains côtés, mixtes, etc. Et on peut pas les tenir responsables complètement de ça. Parce que si vous voulez, les évolutions de la ville, les évolutions des formes urbaines, les poussent aussi à faire ça. C'est-à-dire, Quand vous avez des politiques du logement qui vous disent d'un côté, des messages politiques, des messages publicitaires, qui vous disent d'un côté, il faut devenir propriétaire, sinon vous avez raté votre vie. C'est très clair, ça. Quand vous allez enquêter auprès des gens, vous vous rendez compte que les gens, que pour une bonne partie des gens aujourd'hui, c'est un critère de réussite. Mais vraiment, non pas simplement social, mais de réussite personnelle. Quoi. Si je ne suis pas propriétaire, surtout de mon pavillon, machin, j'ai raté ma vie. Et les gens qui achètent des pavillons et qui ensuite doivent les revendre, sont dans des cônes. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est l'échec de leur vie. Quoi. Donc vous avez à la fois ça, entretenu par la publicité, entretenu par, ben, par les politiques de l'État. Quand l'État choisit, plutôt que l'État pourrait choisir en France de dire on va construire du logement collectif en ville, il reste encore parfois de la place, ou dans des espaces pas trop éloignés, pour y loger les gens, ou des collectifs, ou de l'individuel relativement dense. Et non, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il choisit de faire un effet d'annonce et de dire la maison à 100 000 euros, tout le monde a droit à devenir propriétaire de sa maison, il suffit d'avoir 100 000 euros. Vous comprenez? Là, c'est l'urbanisme, là, c'est la planification urbaine qui repousse les gens à l'extérieur des villes. Donc, la fragmentation sociale, elle est en partie intégrée par les individus, et elle est en partie produite par le développement urbain et les formes qu'il prend. Elle est à l'interaction des deux. Hein. Qu'est-ce qu'il a produit du côté des individus? C'est quand même le fait qu'on est dans une société qui est beaucoup plus insécurisée et insécurisante, du point de vue notamment de l'emploi. D'accord? Et que ça, ça fait que les gens, aujourd'hui, surinvestissent leur lieu de vie. Je prends un exemple. Vous étiez salarié en France dans les années 60. 70. D'abord, vous aviez un emploi, le plus souvent depuis très longtemps. D'accord? Et vous saviez que le jour où vous arriveriez à la retraite, d'accord, le jour où vous alliez arrêter de travailler, vous auriez droit à une retraite. Vous ne doutiez même pas du fait que vous alliez avoir droit à une retraite. Et une retraite dont vous pouviez déjà à peu près calculer le montant. D'accord? Donc vous disiez, ben à la retraite, j'aurai au moins cet argent-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, on dit, attention, déclin démographique, vieillissement de la population, déclin de l'emploi, on n'est pas sûr que dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde pourra avoir droit à la retraite. On dit ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Faites-vous votre retraite vous-même, économisez. On dit quoi aussi? On dit, achetez votre maison. Comme ça, quand vous serez à la retraite, vous aurez au moins ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, il y avait la possession d'un droit, et que la possession de ce droit, petit à petit, les pouvoirs publics essaient de la remplacer par la possession d'un bien. Vous comprenez du coup que la possession du bien, la maison, elle a vachement plus d'importance. Vous comprenez du coup que les gens, tout ce qui peut dévaluer, dévaloriser leur maison, ils vont être vachement attentifs. Parce qu'à la fin, c'est ce qui leur permettra de vieillir décemment.
Le problème, c'est que c'est... Par exemple, en périurbaine, j'ai un parent qui habite en périurbaine de Toulouse. C'est une des communes de l'extrémité de ce qu'on appelle donc Toulouse. Il y a eu... Enfin, la population a doublé en 5 ans. C'est résumé par de la construction de résidences qu'on connaît très bien, notamment à Toulouse. Et le problème, c'est qu'on... Si on y a déjà été dans ces résidences-là ou pas, on s'aperçoit vite que c'est pour la plupart de la mauvaise qualité.
Oui.
Et dans ce que vous avez décrit là, il y a énormément de gens qui ont investi.
Et qui vont être floués.
Mais bien sûr, parce que de toute manière, les mairies n'auront jamais la capacité de construire des logements sociaux et ça leur coûtera moins cher de racheter ces logements-là que de construire de nouveaux logements sociaux. Et donc, forcément, tous ces gens-là, du moment qu'il y aurait un logement social, deux logements sociaux, trois logements sociaux à côté, ben les prix s'effondreront et ces résidences-là, dans 15 ans ou 20 ans, elles deviendront des logements sociaux et à très bas prix. Mais c'est, enfin, ce que je comprends pas, c'est que c'est largement plus qu'envisageable et je comprends pas comment on arrive encore à financer des projets comme ça, en fait, qui sont souvent gigantesque.
Ben, c'est tout l'échec du logement défiscalisé. Ben, c'est une problématique un peu technique, mais en gros, si j'ai 2 minutes pour vous l'expliquer, le logement défiscalisé, si vous voulez, en France, depuis 30 ans, En France, pardon, depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 70, les politiques du logement et de l'habitat étaient gérées, conduites, imaginées par un ministère qui s'appelait le ministère de l'équipement. Bon, ça avait un certain nombre de désavantages, c'était des ingénieurs, mais ça avait un certain nombre d'avantages, c'était quand même des gens qui connaissaient un minimum la construction, qui connaissaient un minimum les territoires, donc qui étaient au fait de tout ce dont on parle là. Donc ils ne laissaient pas complètement construire tout à fait n'importe où, même s'ils ont construit des grands ensembles parfois un peu n'importe où. Bon, depuis les années 70, on est sur des politiques du logement qui sont devenues avant tout des politiques bancaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces politiques bancaires, c'est donc financer des prêts pour que les banques prêtent. C'est plus le ministère de l'équipement qui s'occupe de ça, c'est le ministère des Finances. Donc depuis 30 ans en France, les politiques du logement sont pensées par un ministère qui est le ministère des Finances. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans en France, on considère que l'essentiel des politiques du logement n'a pas pour vocation de loger les gens, mais a pour vocation à soutenir le secteur de la construction et du bâtiment, du BTP et de l'artisanat. Et donc...
C'est bien, ça soutient les architectes.
Indirectement les architectes, mais j'osais pas le dire, si tu veux.
Non, mais moi je le dis, parce que je suis avec un architecte.
Indirectement les architectes. Donc le logement produit en France aujourd'hui n'est pas un logement habité, c'est un produit immobilier. On le quantifie, on ne le qualifie pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des politiques de défiscalisation qui sont une caricature de ce dispositif. Politique de défiscalisation, c'est quoi ? C'est donner des avantages fiscaux à quelqu'un qui est souvent déjà propriétaire pour qu'il devienne propriétaire d'un autre logement et qu'il s'engage à terme à le revendre. D'accord ? Ou le louer à des prix pas très élevés pendant un certain nombre d'années, après quoi, ben, du coup, il est propriétaire de son bien. Et pendant tout ce temps, il a fait des économies d'impôts. Bon. Ça, c'est quoi ? C'est très positif sur le plan de la relance de la construction et du bâtiment. Parce qu'il a fallu des entreprises pour construire tout ça. Donc ça a créé de l'emploi. Bon, c'est très positif du point de vue des gens qui ont acheté ces logements. Parce que ces gens, pour l'instant, ils les ont achetés, ils ont eu des impôts en moins à payer. D'accord ? Et en plus, ils espèrent plus tard les revendre. Mais comme ils ne se revendront pas, parce que vous avez raison, c'est de la mauvaise qualité, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Il va se passer, à mon sens, immanquablement, deux solutions. Soit on démolira, soit on refinancera les travaux de réhabilitation. Qui financera ? L'État. Donc l'État, pas les mairies. Donc l'État reviendra à nouveau mettre de l'argent. Donc ces gens, ils étaient déjà propriétaires, ils le sont devenus en plus, doublement aidés par l'État. On est sur des politiques du logement qui, depuis 30 ans, sont des politiques bancaires de soutien au secteur de la construction. On est sur des politiques du logement qui, depuis 30 ans, se contentent de faire des effets d'annonce. Bon, voilà, la crise du logement en France, quand même. Hein, combien est-ce qu'il manque de logements aujourd'hui en France pour résoudre la crise du logement ? Combien considère-t-on qu'il manque de logements en France aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une idée ?
C'est quoi que vous appelez
de logements accessibles ?
Ah voilà, parce hein, que c'est pas du construit, c'est pas du bâti.
Combien il manque de logements accessibles ?
3 millions.
Oh, quand même. Il en manque environ 1 million. C'est énorme. C'est énorme, 1 million de logements. C'est énorme. À produire, c'est énorme. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des logements vides et des logements vacants. Il y en a à peu près 1,5 million en France. Non, mais par contre, ça veut dire que sur les 1,5 million de logements vacants, il y en a à peu près 1 million qui sont dans des zones qui n'intéressent personne.
Oui.
Dans des villages de montagne,
paumés,
etc. Donc ceux-là, même s'ils sont vides, personne n'habite là. Donc ça ne sert à rien qu'ils soient vides. Enfin, en tout cas, on ne peut pas les utiliser. Hein ? Vous donnez un chiffre, combien il y a de logements vacants à Toulouse ? Combien il y en a ? Il y a des chiffres qui ont circulé dans la presse qui disent 20 000. 20 000. On se dit, mais alors s'il y a 20 000 logements vacants à Toulouse, normalement il n'y a plus personne dans la rue. Tout le monde doit avoir un logement. En fait, on a repris les fichiers. J'ai repris les fichiers de la Direction générale des impôts. Si, une fois que vous avez enlevé toutes les erreurs, tous les doubles comptes, tous les logements, les fichiers de la Direction générale des impôts, ils sont donnés avec 2 ans de décalage. D'accord ? Donc tous les gens qui ont vendu, les erreurs, les machines, les trucs, etc., je vous passe les détails. En fait, s'il y a à peu près 2000 logements vacants à Toulouse, mobilisables effectivement, c'est très bien.
Hein. Dans les normes, c'est-à-dire aux normes.
Non, même pas dans les normes, même les choses avec des travaux. Et si ensuite, sur ces 2000, vous essayez de les remettre sur le marché, les exemples qu'on a sur des villes équivalentes, si vous arrivez chaque année à remettre sur le marché, allez, 10, 15, 20 logements, c'est un grand maximum. Donc on sait que le logement vacant n'est pas une réponse. La mobilisation du logement vacant, c'est pas efficace.
À Saint-Cyprien, vous prenez le quartier Saint-Cyprien, vous prenez des abattoirs jusqu'à Purpan. Il y a une maison sur quatre qui est vide, qui sert de parking, qui sert de...
Mais vide, ça ne veut pas dire qu'elle est vacante. C'est-à-dire, est-ce que demain, les propriétaires de cette maison sont d'accord pour la mettre sur le marché? Oui ou non? C'est ça la vraie question.
Mais ça s'appelle de la spéculation.
Non, pas forcément. Ça s'appelle des gens qui ont hérité d'un bien et qui ne sont pas d'accord pour ce qu'ils veulent en faire. Parce qu'ils ont hérité d'un bien, ils sont cinq frères et sœurs. Et voilà, ce n'est pas forcément de la spéculation.
Non, je... Il y a beaucoup d'appartements.
Donc, je voulais juste terminer sur un point, la question des représentations. Il me semble vraiment qu'il y a un vrai enjeu et une vraie question qui est très ouverte, c'est la question de la manière dont on se représente et dont on représente tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Quelles sont les représentations qu'on adopte? Je parle de, je veux dire, représentations formelles, graphiques, en termes d'image, en termes de tout ce qu'on veut, de discours, etc. Quelle représentation applique-t-on pour permettre de toucher et de comprendre cette complexité, encore une fois, ce passage de la ville à l'urbain? Représenter la ville, c'était pas si difficile. Comment représente-t-on aujourd'hui l'urbain et quelle représentation se fait-on de l'urbain? Ça marche dans les deux sens. Là, je pense qu'il y a un champ sur lequel il y a un certain nombre de disciples. Il y a un champ où les sciences sociales, comme vos disciplines, vos manières de faire, etc., ont à se rencontrer, à discuter, à échanger, à s'enrichir mutuellement, à condition de tisser des langages un peu communs où on puisse se comprendre. On m'avait dit jusqu'à 5 heures, c'est pour ça que je pensais être à l'heure.